Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vous accueille pour un nouvel épisode où l'on va parler de comment garder une belle énergie au quotidien. C'est un épisode qui m'a été inspiré par vos suggestions, donc je demande parfois sur mon compte Instagram qu'est-ce que vous aimeriez savoir, quel type d'épisodes de podcast vous souhaiteriez entendre. Et puis on m'a demandé de partager un petit peu mes conseils pour garder une bonne énergie au quotidien. Alors dans cet épisode, je vais partager des choses qui sont issues évidemment de mes connaissances en psychologie, de aussi toutes les recherches que je fais à côté, que ça soit en nutrition. Peut-être vous le savez, je suis en train de suivre une formation là-dedans. Tous les articles scientifiques également que je lis. Et donc c'est tout un paquet de connaissances et aussi de pratiques personnelles. Alors on dit c'est les cordonniers qui sont les moins bien chaussés. Ben, moi j'essaie de pas faire ça et puis quand j'apprends quelque chose de l'intégrer dans ma vie du quotidien. Donc ça va être un mélange un petit peu de ma pratique, de mon expérience, mais qui est basé sur des connaissances que j'ai acquises à l'université et surtout après. Mais avant cela, j'ai envie de vous parler de la personne qui a sponsorisé cet épisode. Peut-être que vous ne le savez pas, car c'est la première fois que je propose cela, mais à partir d'aujourd'hui, je propose à des personnes, des indépendants, que ce soit des artistes, des personnes dans le milieu du bien-être, ou d'autres personnes qui aimeraient faire parler de leurs services ou de leurs produits. Évidemment, il faut que ça soit aligné avec ce que je souhaite promouvoir, mais je leur propose de sponsoriser des épisodes de ce podcast. Et c'est pourquoi je vais faire la transition pour une petite annonce de la première personne qui a accepté de sponsoriser cet épisode et qui n'est d'autre que Julie Karleskind. Voici son annonce. C'est quand la dernière fois où tu as pris le temps d'être ? Pas de faire, mais de simplement être. Grande question, n'est-ce pas ? Si tu ne sais pas quoi spontanément répondre à cette question, c'est qu'il est peut-être temps de prendre une pause et de t'offrir un temps pour toi. Dans ce monde où tout va trop vite, revenir à l'essentiel est indispensable. L'essentiel, c'est soi et revenir à soi. C'est ce qui nous permet d'emmagasiner de l'énergie pour faire face à la vie quotidienne. Julie t'invite donc à un séjour être du 1er au 3 mars 2024 à la cabane de Luant, avec au programme marche dans la forêt, yoga, méditation, respiration et régal des papilles. Elle se réjouit de t'accueillir. Lors de ton inscription, mentionne que tu viens du podcast Mon Psy part en live. Cela te permettra de bénéficier du tarif Early Bird. Voilà, et je remercie énormément Julie pour sa confiance et pour son sponsoring pour ce podcast. Alors, comment faire pour garder une bonne énergie au quotidien ? Eh bien, on va recommencer par la base. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais parler de choses assez basiques, mais je vais vous donner des astuces que peut-être vous n'avez jamais entendues pour construire une belle énergie au quotidien, parce que ce n'est pas simplement psychologique, c'est même très physiologique. Alors, quand on veut avoir de l'énergie, alors je ne vous surprendrai peut-être pas, mais il faut avoir suffisamment de sommeil et aussi une belle qualité de sommeil. Donc, ça dépend beaucoup des personnes et aussi en fonction de l'âge. Donc, il y a des personnes qui, en effet, n'ont pas beaucoup besoin de dormir, en tout cas qui ont moins besoin de dormir que la moyenne. Maintenant, c'est une faible partie de la population. Alors que dans les cabinets psy, souvent, on entend des gens qui disent « Ah non, mais moi, 6 heures de sommeil, ça me suffit largement. » Pour la plupart des gens, c'est pas que ça vous suffit, c'est juste qu'on s'habitue à être fatigué. Et donc, on oublie en fait qu'est-ce que c'est que de fonctionner à un niveau optimal d'énergie. Donc, pour la majorité des personnes, on va viser entre 7h30 et 9h de sommeil. C'est super important. Le sommeil, c'est là où on se régénère, où les muscles se réparent, où les connexions dans le cerveau se font. Typiquement, quand on est en révision, si on est étudiant, c'est vraiment une très mauvaise idée de prendre sur son sommeil parce qu'on veut réviser un peu plus, parce que en fait, c'est durant le sommeil que l'on intègre les informations. Donc, le sommeil, c'est ultra important. Si ce n'était pas important, on aurait trouvé un moyen de couper là-dessus. On ne passerait pas autant de temps à être inactif. Donc, on connaît l'humain, on cherche toujours à optimiser. Donc voilà, si on est toujours, après des millénaires, à dormir quand même plusieurs heures par jour, c'est que ça a une super utilité. Alors, les jeunes, quand on est à l'adolescence, enfin les enfants, les ados, ont plus besoin de sommeil. Plus on vieillit, moins on en a besoin. Donc ça, c'est des variations aussi au niveau de l'âge. Mais grosso modo, on va chercher à avoir 7h30, 9h. Si on est en dessous de ça, eh bien, c'est comme un caillou qu'on se met sur le dos. Puis, alors, on va peut-être réussir à fonctionner, mais eh bien, ça va beaucoup plus peser. Il faut savoir que le sommeil, c'est une sorte de thérapie gratuite, si on veut. Parce que c'est pendant le sommeil aussi donc, que les connexions se font entre les synapses, entre les neurones, mais c'est aussi là où on fait du tri dans les synapses. Donc, notre cerveau, il va enlever, il va débroussailler, si on veut, toutes les connexions qui ne devraient pas se faire, qui sont irrationnelles ou voilà, qui ne font pas de sens, pour garder uniquement celles qui paraissent les meilleures. Et ça, ça se fait pendant le sommeil. Donc, si on ne le fait pas, eh bien, si on ne dort pas assez, on va commencer à mal penser, on va se faire des idées, on va peut-être devenir un peu paranoïaque, on va commencer à mal réfléchir. C'est notamment dû à cela. Et le fait de rêver aussi, quand je parle de thérapie naturelle, ben, ça peut avoir un peu la même fonction que l'hypnose. Des fois, en hypnose, on va faire revivre à des personnes des événements traumatiques, mais lorsqu'ils sont en hypnose, eh bien, ils sont relaxés. Et donc, le fait de vivre quelque chose qui a été traumatique, mais de le revivre de manière relaxée, ça peut permettre de changer le souvenir, de changer l'empreinte émotionnelle que cela a. Et donc, ça va permettre aussi, des fois, de changer la vision qu'on a sur cet événement et d'enlever certains traumatismes. Et ça, quand on rêve, eh bien, il y a un peu la même fonction, parce qu'il y a des phases de sommeil où on peut revivre des situations, mais durant lesquelles on ne va pas ressentir de stress, où il n'y aura pas de sécrétion d'adrénaline, de cortisol, etc. Donc, qui sont des neurotransmetteurs, des hormones du stress. Et donc, ça va permettre de revivre ces moments-là, mais en étant apaisé. Et ça, c'est une vraie thérapie naturelle. Donc, ne rabotez pas votre sommeil, c'est une mauvaise idée. Alors là, je vous ai parlé de pourquoi c'était important le sommeil, pourquoi il fallait en avoir assez, mais c'est aussi important de chercher à avoir une bonne qualité de sommeil. Et pour ça, je vous donne quelques tips. Pour avoir une bonne qualité de sommeil, il faut se synchroniser avec la lumière du jour. Donc, au début de la journée, eh bien, on va chercher à avoir beaucoup de lumière, le plus possible dans les yeux pour que cela active notre organisme. Donc ça, c'est super important parce que tout notre organisme est réglé par les rythmes circadiens. C'est les rythmes veille-sommeil. Et c'est ça qui règle toutes nos hormones, tout le fonctionnement de notre corps. Donc, pour avoir une bonne énergie, le plus vite possible, on a de la lumière dans les yeux le matin. Donc, idéalement, il faudrait aller dehors, même 5-10 minutes, hein, juste que de la lumière du soleil rentre dans nos yeux. Ou si on se lève, qu'il fait encore nuit, pourquoi pas utiliser une lampe de luminothérapie? C'est ce que je fais moi durant la période hivernale. Ça va activer le corps. Donc ça, c'est quelque chose de super pour l'énergie. Et puis, en fin de journée, eh bien, il faudrait que la lumière soit plus tamisée. Donc, en fait, ça, c'est notre cerveau, ben, il doit comprendre que okay, là, le soleil se baisse, donc on va se préparer à aller se coucher. Il ne faut pas oublier que l'électricité, elle n'a pas toujours existé. Et donc, avant, on était calqué sur les rythmes du soleil. Et donc, si on a une lumière forte, et puis que c'est 22 heures, notre cerveau, il va croire que le soleil est encore là. Donc, il ne va pas nous préparer au sommeil. Donc, essayez d'avoir des lumières beaucoup plus tamisées le soir, si possible, qui viennent d'en dessous, pas des lampes qui viennent du dessus, parce que l'angle avec lequel la lumière rentre dans l'œil a aussi une importance, parce que ben voilà, le soleil il est en haut, je vous apprends rien. Donc si la lumière vient d'en bas, ça n'a pas le même impact. Donc ça, c'est une astuce pour améliorer la qualité de votre sommeil et donc votre énergie. Une autre chose, c'est de dormir dans une chambre qui est suffisamment fraîche. On dit idéalement autour des 21 degrés. Alors en été, évidemment, on fait ce qu'on peut. Mais c'est surtout en hiver où on peut avoir tendance à trop chauffer. Et ça, ça va impacter négativement la qualité du sommeil. Idéalement aussi, on va chercher à avoir une bonne literie. Donc avoir un lit, un matelas qui est confortable, avoir un oreiller qui nous soutient bien, sur lequel on se sent bien. Ça paraît bête, mais c'est super important. Aussi, du coup, par rapport à la lumière, avoir une chambre qui est la plus sombre possible, parce que même un tout petit peu de lumière, ça peut endommager la qualité du sommeil. Et puis, une dernière astuce que je pourrais vous donner, c'est de ne pas boire d'eau, ou alors encore moins d'autres choses, que ce soit du café, de l'alcool, etc., on n'en parle pas. Mais de ne pas boire de liquide 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Comme ça, vous allez vraiment vous coucher avec la vessie vide. Parce que si vous avez une vessie même qui n'est pas complètement pleine, ça va impacter négativement la qualité du sommeil. Vous allez aller moins profond dans les phases de sommeil. Donc ça, c'est des conseils pour déjà grandement améliorer la qualité de votre sommeil. Et donc, avoir une meilleure énergie le lendemain. Une deuxième idée pour commencer à avoir plus d'énergie au quotidien, eh bien, c'est de faire des pauses au travail, ou peu importe ce que vous faites, si vous faites quelque chose qui est prenant physiquement ou mentalement, eh bien, c'est de prendre des pauses. Et puis, la pause, eh bien, de vraiment en faire une pause. Parce que le problème, c'est que souvent, au boulot, quand on prend une pause, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un café qui va finalement stresser l'organisme encore plus. Certains vont fumer une cigarette. Pareil, c'est un excitant. Donc, en fait, les pauses qu'on prend pour la plupart des gens au travail, c'est des pauses qui ne vont pas nous calmer, elles vont encore plus nous stresser. Et donc, ça va épuiser aussi l'organisme. Donc, vraiment, prendre toutes les heures une petite pause, vous lever, même si c'est 1-2 minutes, vous lever de votre bureau, aller bouger, prendre un verre d'eau, prendre le temps de bien respirer, ça, c'est super important. Combien de personnes bloquent la respiration quand elles sont en train de travailler ou ne respirent pas suffisamment bien? Donc, idéalement, chercher à respirer avec le ventre plutôt, avec des longues expirations. Plus on expire, plus ça calme. Donc, prendre le temps de bien respirer, ça, c'est super important. Et puis, de bouger le corps, parce qu'un des fléaux de notre société, c'est qu'on travaille beaucoup dans le secteur tertiaire. Et donc, on est très sédentaire, on ne bouge pas, on est assis et notre corps n'est pas fait pour ça. Donc, le fait de bouger notre corps, eh bien, ça va aussi créer de l'énergie et nous régénérer. Donc, idéalement, si on veut la pause idéale au travail, ça serait sortir du bâtiment, aller dehors, pas être sur le téléphone ou quoi, vraiment prendre le temps de respirer, bouger un peu, faire quelques pas, et puis ensuite y retourner. Une troisième astuce pour booster l'énergie au quotidien, eh bien, c'est de faire de l'activité physique. Donc, ça suit un petit peu ce que je viens de vous dire par rapport au fait de bouger. Là, vraiment, d'en faire une activité physique au sens large. C'est-à-dire que marcher, c'est déjà une activité physique. Idéalement, on va viser, on a cette barre des 10 000 pas par jour. J'ai vu dernièrement passer quelque chose de la doctoresse Tchaïkovski, avec qui je vais faire une interview tout bientôt. Donc, c'est une médecin du sport qui parlait des seuils à partir desquels il y avait un vrai bienfait au niveau de la santé par rapport au pas. Et puis, elle disait que déjà, il y avait des grosses améliorations au niveau de la santé physique quand on passait d'environ 3500 pas à 7500, quelque chose comme ça. Et puis alors après, de 7500 à 10 000, ça a augmenté encore. Mais déjà, si on arrivait à être autour des 7 000, ce serait déjà top. Donc, il n'y a pas besoin de faire un sport intense pour avoir une bonne énergie. Après, d'avoir une activité physique vraiment sportive, que ce soit avec de l'activité cardio comme de l'activité de force, avec des poids par exemple, de varier ce type d'exercice, ça a énormément de bienfaits pour la santé. Je ne vais pas les détailler là. Mais avoir une activité physique qui est raisonnable, si on en fait trop, évidemment, ça va puiser trop dans notre énergie aussi. Mais idéalement, si on arrivait déjà à faire 30 minutes d'activité physique, déjà, je ne sais pas, 3 fois par semaine, c'est déjà, au niveau physique et mental, ça fait déjà un grand bienfait. Mais si vous arrivez à mettre un peu d'activité physique tous les jours, monter les escaliers à pied, ne plus prendre les ascenseurs, voilà, vous déplacer à pied plutôt que de prendre la voiture ou le bus si c'est possible. Quand vous allez en course, bah voilà, porter les courses, c'est des choses du quotidien, hein. Bah, ça évite de devoir aller encore dans un fitness pour faire exactement les mêmes exercices, hein. Donc ça, ça fait déjà une énorme différence. Parce que là, ça c'est l'absurdité de notre société, hein, c'est qu'on a tellement déserté les métiers manuels, l'agriculture, etc., que finalement on a dû inventer le fitness pour reproduire les exercices qu'on faisait naturellement avant. Donc maintenant on passe devant un fitness, qu'est-ce que font les gens ? Ils montent des escaliers infinis, ils marchent sur un tapis de course, ils portent des poids comme si on portait, que ça soit sur le dos ou comme ça. Donc voilà, et je vois des fois des gens qui vont au fitness, qui vont prendre l'ascenseur pour arriver au fitness puis aller marcher sur des marches infinies. Donc arrêtons d'être absurdes et puis commençons à intégrer déjà cette activité dans notre quotidien. Et ça, ça fera déjà énormément de bien. Un autre conseil qui aura énormément d'impact sur votre énergie au quotidien, qui est très simple et pourtant beaucoup de gens ont de la peine avec ça, c'est l'hydratation. Moi, j'aborde tout le temps cette question en consultation et je suis effaré du nombre de personnes qui n'arrivent pas à boire, qui me disent qu'elles boivent un verre, deux verres d'eau dans la journée. C'est une catastrophe et ça, ça a un impact sur la santé physique et mentale et évidemment sur l'énergie. Le corps, principalement, est constitué d'eau, de liquide. Donc, si on ne lui apporte pas suffisamment de liquide, eh bien, on va fonctionner vraiment au ralenti. Donc idéalement, à nouveau, ça va dépendre de la saison, de votre âge, de votre corpulence, de votre activité physique. Mais on va recommander au minimum 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour. Si vous buvez de la tisane, ça va aussi. Et puis si on fait beaucoup de sport, ben, il faut varier, il faut augmenter les quantités. Ou s'il fait très chaud, ou si il fait très sec, etc. Mais si vous arrivez déjà à atteindre 2 litres, 2 litres et demi, je vous assure que ça fera déjà une énorme différence sur votre énergie. Donc si vous ne pouvez changer que ça après avoir écouté cet épisode, ça peut déjà faire un énorme impact. Et puis un dernier aspect que je vois, donc je le répète, hein, c'est pas exhaustif tous les conseils que je vous donne là, il y en a sûrement encore plein d'autres que vous pouvez utiliser pour améliorer votre énergie. Moi, je vous donne certains que je pratique, mais le dernier conseil que je peux vous donner par rapport à la préservation de votre énergie quotidienne, c'est de travailler sur votre nutrition. Donc, moi, je me forme à ça parce que je vois de plus en plus l'importance de la nutrition sur la santé mentale. Et donc, c'est un point non négligeable, central même de votre énergie. Alors, je vais vous donner, on ne va pas faire un truc très détaillé, mais je vous donne dans les grandes lignes, certains points que vous pourriez déjà améliorer. Et puis après, si vous voulez vraiment faire ça de manière détaillée, il faut prendre rendez-vous avec un diététicien, un coach en nutrition, etc. Alors après, à nouveau, je ne vais pas rentrer, il y a plein d'écoles différentes, d'approches, de pensées différentes par rapport à la nutrition. Est-ce qu'il faut jeûner ou pas ? Donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a plein d'avis différents. Donc, vous faites comme vous voulez. Mais idéalement, il faudrait que vous ayez votre apport calorique journalier, il faut qu'il soit rempli. Donc si vous prenez trop de calories par jour par rapport à ce dont vous avez besoin, vous allez prendre du poids. Si vous n'en prenez pas assez, ben, vous risquez d'en perdre et de manquer d'énergie aussi. Parce que faut le voir comme un carburant. Et ben, si on n'a pas assez de carburant, on ne va pas avancer soit pas du tout, soit on va avancer lentement. S'il y a trop de carburant, on est noyé dedans, on est trop lourd, pareil, ça va nous ralentir. Après, comment vous le répartissez ? Il y en a qui mangent le matin, d'autres pas, d'autres qui font qu'un repas, d'autres plusieurs. Au niveau digestif, moi, je recommande de fractionner un petit peu. Moi, personnellement, je fais 3 repas bien complets, puis j'ai 2 collations dans la journée. Voilà, donc plus on fractionne, moins ça va surcharger notre système digestif, moins on risque d'avoir des crashs comme ça parce qu'on digère des trucs trop lourds. Moi, je conseillerais d'avoir des repas qui sont équilibrés au niveau des macronutriments, c'est-à-dire au niveau des lipides, de tout ce qui est acide gras, au niveau des protéines et au niveau des glucides. Si possible, d'avoir tout ça dans chaque plat, idéalement. Comme ça, c'est des choses dont vos organes, vos cellules ont besoin. Donc, si vous avez ça à chaque prise alimentaire, c'est vraiment le top. Et puis, surtout, hein, les glucides, elles ont tendance à être diabolisées, alors qu'on en a besoin. Hein. Notre cerveau, les neurones, c'est des cellules qui ont besoin de glucose. Donc, elles ont besoin de sucre. Alors, ce n'est pas pour aller manger du sucre blanc, hein, mais ça peut être des glucides complexes, hein, tout ce qui est pâtes, féculents, tout ça. Ça, c'est important aussi d'en avoir, sinon ben, vous n'allez pas fonctionner de manière optimale. Une chose qui est importante, c'est qu'on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il faut manger ou ne pas manger, mais on ne parle pas de comment on le mange. Et puis ça, c'est super important, surtout pour un travail de base en nutrition. Donc, une règle de base, c'est je mange quand j'ai faim, je ne mange pas quand je n'ai pas faim. Ça paraît bête, mais à nouveau, il y a plein de fois où il y a des rythmes sociaux. C'est midi, c'est la pause, il faut que j'aille manger alors que je ne me demande pas si j'ai faim. Peut-être j'avais faim à 11h, peut-être j'aurais faim à 13h. Donc idéalement, je mange quand j'ai faim, je ne mange pas quand je n'ai pas faim. Et puis ça demande aussi, pendant le repas, d'être attentif. C'est-à-dire, je mange et je me demande, est-ce que j'ai encore faim ou plus faim? Est-ce que je suis arrivé à rassasiement? Donc, ça demande aussi de prendre du temps pour manger. La plupart des gens gobent leur repas en 10-15 minutes, mais le problème, c'est que la sensation d'être rassasié, elle vient à peu près autour des 20 minutes. Donc, si on mange en 15 minutes la première assiette de pâtes, on va être tenté de se dire « Ah, j'ai encore faim, je me resserre. » Puis après, on va avoir le signal qui arrive, puis c'est là où on sent qu'en fait, on a le ventre qui est prêt à exploser. Donc, plus vous allez allonger le temps de repas, mieux vous allez digérer aussi, vous allez aussi mieux contrôler la quantité de ce que vous mangez. Vous n'allez pas être surchargé après, puis avoir le crash parce qu'on a trop mangé, ou on a mangé des choses trop lourdes ou trop sucrées, qui font qu'on a un pic de sucre, puis ensuite ça crash. Et du coup, on est super fatigué, ça redemande du sucre. Donc pour ça, allonger les temps de repas, mastiquer bien. Ça, c'est un truc que aussi la plupart des gens vont gober un peu ce qu'ils mangent, vont mâcher peut-être 2-3 fois, puis ils avalent. Il faut idéalement que ce qui rentre dans votre estomac, ça soit une consistance de bouillie. Il ne devrait plus y avoir de morceaux. Donc, s'il y a des morceaux, ça va faire que l'estomac va galérer, tout le reste de la digestion va galérer, vous allez moins bien absorber ce que vous mangez, donc vous allez perdre des nutriments, vous allez juste les évacuer. Et puis, ça va ralentir en fait tout le système, donc vous allez perdre en énergie. Donc ça, c'est des trucs de base, hein. Mais mastiquer, manger plus longtemps, et puis ça va déjà faire une énorme différence. Donc ça, c'est un peu des indications, vraiment des grandes lignes que je vous propose de suivre. Ça ne sert à rien d'aller dans le détail, parce que déjà, si vous arrivez à mettre ça en place, je vous assure que ça fera une différence énorme dans votre vie. Si vous voulez mon exemple, à partir de ça, qu'est-ce que je fais un peu dans ma routine? Eh bien, moi, je me lève. Alors là où j'ai un peu de peine, c'est au niveau du sommeil. J'arrive à 7h30 à peu près, mais j'aimerais bien arriver à augmenter. Mais voilà, ça, c'est le truc sur lequel je travaille. Donc, je me lève. Moi, je mange un petit déjeuner, une crème Budvig. Donc, il y a du yogourt, de l'huile, de lin, des flocons d'avoine. Je mets des graines, je mets des fruits dedans. Donc, comme ça, il y a un peu tout ce dont j'ai besoin. Puis ensuite, je fais mon sport. Je fais à peu près 1h30 de sport. Le matin, quand je termine mon sport, je vais à la douche et puis je prends une douche froide, environ 1 minute. Vous verrez, hein, quand on se douche à l'eau froide, surtout là, j'enregistre cet épisode en plein mois de janvier, il fait moins 4 dehors là, donc l'eau qui sort, elle est bien bien froide. Je vous assure que vous allez économiser de l'eau, donc ça fait du bien à la planète. Vous allez économiser aussi en chauffage, et donc ça ne fait que du bien. Et surtout, la douche froide, eh bien, ça, c'est aussi quelque chose qui booste l'énergie. Il y a plein de vidéos que je vous incite à regarder sur Internet et qui expliquent un peu ces bienfaits. Moi, j'utilise personnellement et c'est clair que ça donne un coup de fouet. Ça aide aussi pour l'endormissement le soir parce que la température corporelle, on l'a vu plutôt dans le podcast, quand on va dormir, eh bien, elle descend. On a besoin d'une température plus fraîche Parce que, en fait, quand vous douchez à l'eau froide, votre corps va ensuite travailler pour le réchauffer. Donc ça va activer le corps. Et puis, alors, si vous êtes quelqu'un qui se douche le soir, douchez-vous à l'eau chaude, parce que le fait que vous ayez plus chaud que ce que vous devriez, eh bien, votre corps va faire des efforts pour refroidir. Et puis, plus on se refroidit, plus ça va aider à l'endormissement. Donc moi, je me douche à l'eau froide le matin. Durant la journée, je bois de l'eau à chaque consultation pour être sûr d'avoir suffisamment d'hydratation. Et puis, voilà, le soir, j'essaie de tamiser les lumières chez moi, pas boire de liquide avant d'aller dormir. Et puis, idéalement, éviter les écrans aussi. Alors, ça, c'est pas toujours facile, mais éviter la lumière des écrans directs. Moi, si je regarde un film, je le regarde projeté avec un beamer. Donc, il n'y a pas cette lumière de l'écran directement dans mes yeux. J'essaie d'éviter de trop regarder mon téléphone. Si on arrive à faire de la lecture ou comme ça, des choses qui n'envoient pas de la lumière trop forte dans les yeux, c'est idéal. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. J'espère que cet épisode vous aidera. Je pense que si vous suivez ces conseils, ça peut vraiment avoir un énorme impact sur votre vie et sur votre énergie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos feedbacks en commentaire, à mettre une évaluation sur Apple Podcast, sur Spotify, mettre des étoiles, ça m'aide énormément à diffuser ce podcast. Donc merci pour votre fidélité, pour votre soutien, et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.